matinale du 7h. Didier Blé.
Merci de nous retrouver. Premier rendez-vous de l'information sur Radio de la Paix. Bonjour et bienvenue. Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, chapelle politique en action sur le terrain. L'opposition ivoirienne peut-elle s'unir face au RHDP, le parti au pouvoir? Eh bien, pour Dr Flamouké César, cette probabilité a peu de chances du fait d'une gauche fragmentée. Lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, elle se fera désormais à partir d'un document de stratégie nationale élaboré sous la houlette de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance et validé par le gouvernement. Dr Christophe Kouamé sera joint par Francis Cassi, vous l'entendrez dans cette édition. En page internationale, la création de la Confédération de l'AES au cœur du sommet de la CDAO, c'était ce dimanche à Abuja. Vous aurez dans cette édition la revue des titres présentée par Jean-Mélène Bitti et puis dernier temps fort, l'invité de la rédaction. Pourquoi la liste électorale enregistre moins d'inscrits et quelle est l'attitude idoine que doivent adopter les politiques à ces questions et à bien d'autres, répondra le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouao. Il sera interrogé par Francis Cassi. Merci de nous retrouver et bienvenue à tous. L'élection présidentielle ivoirienne aura lieu vers la fin de l'année 2025. Mais déjà, les différentes chapelles politiques sont en action sur le terrain et au niveau de la classe politique ivoirienne, une question taraude de nombreux esprits. L'opposition peut-elle s'unir face au RHDP, le parti au pouvoir? Eh bien, pour Dr Flamouké César, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan, cette probabilité a peu de chances de se concrétiser du fait d'une gauche émiettée fragmenté. Nous l'écoutons.
La configuration actuelle du système des partis laisse difficilement apparaître cette probabilité. Premièrement, quand je prends les partis de la gauche traditionnelle en Côte d'Ivoire, on voit bien que la gauche traditionnelle en Côte d'Ivoire est fortement fragmentée. Elle est même émiettée, à la limite. Et à l'intérieur de cette famille politique, il y a de profondes dissensions qui vont d'une vision politique à des problèmes même de personnes, à la limite. Du coup, au niveau de la gauche, il est difficile d'envisager un rapprochement ou alors d'envisager un accord, une alliance qui puisse amener ce groupe à se présenter comme une force crédible face au RHDP. Je voudrais rappeler qu'une opposition pour prendre le pouvoir doit pouvoir faire rêver. Lorsqu'une opposition ne fait pas rêver, à partir de ce moment, il n'est pas possible pour cette opposition de prendre le pouvoir. En termes d'alliance au sein de la grande famille de l'opposition, je suis dubitatif, mais je ne dis pas qu'il est impossible d'avoir, par exemple, une candidature unique. Mais je pense qu'à regarder de près la configuration du système des partis en Côte d'Ivoire et ayant observé aussi le comportement politique des principaux acteurs politiques, je pense que la question de savoir qui va s'effacer au profit d'un autre va fortement être l'équation à résoudre.
Vous écoutez à l'instant Dr Flamouké César, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan. Désormais, la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire se fera à partir d'un document de stratégie nationale élaboré sous la houlette de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance et validé par le gouvernement. Les explications à cet effet du président de Civis Côte d'Ivoire. Civis Côte d'Ivoire est une association d'éducation à la citoyenneté. Dr Christophe Kouamé est joint par Francis Cassi.
En réalité, la stratégie nationale de lutte contre la corruption est la stratégie matrice de toute la Côte d'Ivoire. L'administration publique, le privé et la société civile ont leur part écrite là-dedans. Dans le document, chaque partie prenante qui est censée lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire a une part dédiée. Donc, il aura pour le privé, il aura pour la société civile, il aura pour l'administration publique. C'est pour cela qu'on l'appelle la stratégie nationale de lutte contre la corruption.
Donc c'est par ce document seul que tout le monde doit lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire, ou bien on peut le faire aussi autrement?
Dans le document, vous avez le public qui aura sa part, vous avez le privé qui aura sa part, vous avez la société civile qui a sa part, vous avez même les partis politiques qui ont leur part, vous avez la presse qui a sa part. Ça veut dire que ce document, il a été fait pour que toutes les entités de Côte d'Ivoire qui sont censées obligatoirement lutter contre la corruption ont leur part de stratégie dans ce document-là qui va être bientôt publié. L'ONG Transparency International dit que la corruption, c'est l'utilisation par un individu dans le privé comme dans le public du pouvoir qui lui est donné à son profit personnel et non au profit de l'intérêt général.
Docteur Christophe Kwame, président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire. Et puis la Côte d'Ivoire veut être à la tête de l'initiative de l'Afrique de l'Ouest en faveur des meilleures données et statistiques sur la migration de main d'œuvre. Et bien pour se donner les moyens de cet engagement, un atelier vient de se tenir à Grand Bassam du 9 au 12 juillet 2024 avec l'appui de plusieurs partenaires dont l'Organisation internationale du travail et l'Union africaine. Junior Cardin.
Face aux enjeux et opportunités que représentent les questions de la migration, la mise à disposition des données factuelles sur la mobilité de la main-d'œuvre est un réel défi. D'où la création du système d'information sur le marché du travail en Côte d'Ivoire, dont le lead échoit à l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Son directeur, Pananquin Émile Condé.
Donc toutes les structures qui sont identifiées possèdent des statistiques, mais il faut mettre tout ça dans un système et puis le structurer. Faire en sorte que tout ce que les gens possèdent dans leur tiroir, il faut pouvoir le ressortir, le traiter, de sorte qu'on puisse produire les indicateurs relatifs à ça.
Ce programme est une préoccupation pour l'Union africaine, dont les chefs d'État l'ont approuvé depuis 2015, au dire de Odette Sarr Boli, coordonnatrice du programme Migration de la main-d'œuvre de l'Union africaine.
Qui parle de mobilité de la main-d'œuvre parle de gouvernance, parce qu'on doit protéger nos migrants travailleurs qui quittent nos pays pour aller travailler et monnayer leur talent ailleurs. Donc les données sont très importantes, mais également tout ce qui touche à la gouvernance, les politiques, le recrutement pour minimiser les cas d'abus.
Pour la représentante des centrales syndicales, cet atelier donne matière à discussion avec les employeurs.
Si on veut aller travailler ailleurs, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui nous manque. Donc, à partir des informations que nous avons reçues, nous pourrons mieux mener la discussion avec notre employeur et puis aider aussi l'employeur à mettre en place des dispositions légales pour protéger d'éventuels candidats à la migration.
Un autre atelier est prévu pour aller au-delà de la migration et qui va porter sur la production des indicateurs en vue de cerner le marché du travail.
Poursuivons cette édition et retrouvons-nous à San Pedro où le conseil régional avec une nouvelle équipe depuis les dernières élections veut actualiser les besoins des populations. Pour sa troisième réunion de 2024, le conseil a décidé de procéder à une adoption du budget modificatif sous réserve vu que le nouveau conseil a hérité d'un certain nombre d'actions et d'opérations de la précédente équipe. Des détails avec vous Kofi Benson.
Pour 2024, le budget modificatif du Conseil régional de San Pedro s'élève à un peu plus de 5 milliards 654 millions de francs CFA contre 5 milliards 101 millions de francs CFA en 2023. Un budget adopté sous réserve avec les raisons présentées par Gégile Dieno, 6e vice-président du Conseil régional de San Pedro.
On a hérité d'un certain nombre d'actions et d'opérations des mandatures précédentes. On a besoin de revoir un certain nombre d'éléments à l'intérieur. De 2017 jusqu'à 2024, les besoins des populations ont évolué. Donc, si vous voyez que le président a souhaité qu'on ait une adoption sous réserve, c'est pour actualiser les données qui sont contenues dans les différentes actions qui représentent pratiquement plus de 40% du budget de notre programme et il est important qu'on puisse bien les adresser.
La région de San Pedro est invitée à participer à des journées sino-africaines, une occasion pour renforcer les liens de partenariat pour le développement de la région selon Boka Maurice, directeur général de l'administration du Conseil régional.
Les journées sino-africaines se tiendront les 10 et 11 juillet à Guangzhou, en Chine. À cette importante rencontre de haut niveau, la région de San Pedro est invitée spéciale et sera représentée par le président lui-même pour démontrer la dynamique des relations entre la région de San Pedro et la Chine.
Notons qu'à la suite des pluies diluviennes qui ont entraîné les inondations, le conseil régional a fait un don d'un peu plus d'une tonne de riz, des matelas, des nattes aux familles sinistrées. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Parlons agriculture dans cette édition. Le ministre de l'Agriculture, de développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, a inauguré ce samedi 6 juillet 2024 à Yamsoukro un incubateur pour le développement des produits dérivés de la nacarde, Cajou Food Tech. Cette infrastructure, la première du genre en Côte d'Ivoire, est une usine école du Conseil du coton et de la nacarde située donc au sein du Centre d'innovation et de technologie de la nacarde à Yamsoukro. On en sait un peu plus avec vous, Emilia.
Avec une capacité journalière de traitement minimum de 200 kg d'amandes et 200 kg de pommes de cajou, le Cajou Food Tech est doté d'un laboratoire d'analyse phycochimique composé de 7 zones de production respectant le flux de personnes et de matières. Une fierté pour Dr Adama Koulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde.
Nous avons des raisons d'être suffisamment fiers parce que c'est un incubateur qui va permettre de former nos artisans en entrepreneuriat, à la labellisation commercialisation de leurs produits, à la qualité de leurs produits. Et c'est l'ensemble de toutes ces motivations qui font que cette infrastructure était extrêmement nécessaire.
Un développement salutaire qui va désormais permettre aux Ivoiriens de consommer les produits locaux, estime Kobena Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture.
Il y a toutes sortes de produits qui sont dérivés donc à la noix de cajou. Nous avons les amandes de cajou, les jus de pommes de cajou, de l'huile, même du lait de cajou. Et nous voudrions saluer l'initiative prise par le conseil Coton-Anacard d'étendre sa gamme de production.
Une réalisation rendue possible grâce à la Banque mondiale, son vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana.
Je voudrais féliciter le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour sa vision d'une agro-industrie complète qui est extrêmement importante pour le développement du pays.
Il est à noter que la réalisation de cet incubateur a bénéficié de l'appui technique de l'Institut européen de coopération et de développement, IECD. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Actualité en page africaine. Le 65e sommet de la CEDEAO s'est tenu ce dimanche 7 juillet à Abuja au Nigeria. La conférence a commencé à huis clos. La cérémonie s'est ainsi ouverte avec une heure de retard, un retard de 2 ans temporairement. Ce sommet de la CEDEAO se déroule après celui de l'Alliance des États du Sahel AES qui a débouché sur la création d'une confédération Burkina, Mali et Niger qui s'est tenue la veille, le samedi. Le sujet important sur la table était non seulement la confirmation du départ de la CEDEAO des 3 pays, Mali, Niger, Burkina Faso, mais surtout la décision de créer une confédération par ces 3 pays. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, dont c'était le premier sommet, s'était penché sur le risque de désintégration de l'organisation. Il a également demandé de débarrasser la CEDEAO de clichés qu'il accuse d'être à la solde de puissances étrangères. Sans transition, nous retrouvons Jean-Mélène Bitti pour la revue des titres. Mélène, bonjour.
Bonjour Didier, bonjour à tous. La revue des titres de la presse ivoirienne de ce lundi 8 juillet aborde les sujets suivants. L'hommage au président Alassane Ouattara, l'encadre du décès d'Amadou Gon Coulibaly, la crise à la mairie de Iré, le 65e sommet de la CEDEAO et l'élection législative en France. Cérémonie d'hommage au président Ouattara, les producteurs de cacao et de café affichent leur soutien. Fraternité Matin explique les raisons de ce soutien, tandis que les Inter et Le Matin rapportent que les producteurs ont même payé la caution de candidature du président pour la présidentielle de 2025. Le sursaut adopte un ton plus critique, évoquant une mise en scène de la part des producteurs. Le Bélier intrépide s'interroge sur les implications de cette cérémonie pour la filière café-cacao et la présidentielle de 2025. L'anniversaire du décès de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est commémoré ce lundi. Le Patriote et l'Avenir lui rendent hommage sous qu'il ne sera jamais oublié. La crise à la mairie de Iré s'aggrave. 4 des 5 agents au maire ont en effet décidé de se désolidariser de Francis Gilbert Kakou, l'accusant de trahison. Le mandat, l'essor ivoirien et le temps rapportent cette information. Le Bélier intrépide s'interroge sur les motivations derrière ces violences et les menaces qui pèsent sur les acteurs de cette crise. 65e sommet de la CEDEAO, l'avenir de l'organisation en question a suscité des inquiétudes. Quant à l'avenir de la CEDEAO, Génération Nouvelle évoque un avenir de la CEDEAO en pointillé, tandis que Le Temps et Le Patriote voient dans cette création une menace de désintégration de l'Afrique de l'Ouest. L'Inter et La Voix Originale adoptent un ton plus alarmiste, affirmant que la CEDEAO perd définitivement le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le deuxième tour des élections législatives en France a eu lieu ce dimanche. Les résultats indiquent que la gauche est en tête devant les Macroniste et le Rassemblement National. L'Intelligence d'Abidjan, Le Temps, l'Inter et La Voix Originale rapportent cette information. Le Bélier intrépide se montre plus enthousiaste, titrant « Deuxième tour des législatives en France, la gauche en fête, Mélenchon jubile ». Voici l'essentiel de l'actualité vue par vos journaux de ce lundi 8 juillet. Merci à vos journaux et bonne lecture.
Jean-Mélène Bitti pour la revue des titres. L'invité de la rédaction ce jour est juriste et analyste politique. Pour lui, il y a moins d'inscrits sur la liste électorale parce que les populations estiment que depuis 2 décennies, les élections sont source de violence en Côte d'Ivoire. Et seul le comportement démocrate des politiques eux-mêmes et leur staff pourrait inverser la tendance. Géoffroy Julien Kouaou répond aux questions de Francis Cassi.
Géoffroy Julien Kouaou, bonjour.
Bonjour Francis Cassi.
Alors, par rapport à la présidentielle de 2025, tous les partis politiques, notamment les trois grands, RHDP, PDCI et PPACI, misent sur l'enrôlement massif des électeurs sur la liste électorale. Pourquoi ?
Oui, mais parce que pour avoir une élection, il faut des électeurs. Ce sont les électeurs qui élisent les candidats. Et donc, ils ont intérêt à ce qu'on ait un corps électoral assez consistant pour donner plus de légitimité à l'élection.
Mais le disant, ils font toujours remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur la liste. Pourquoi cette attitude des Ivoiriens par rapport à la liste électorale?
Oui, c'est un désintérêt vis-à-vis de la chose électorale pour plusieurs raisons. Vous savez que depuis 90, les élections riment avec la violence en Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'une des raisons. Autre raison, c'est que les élus ne répondent pas toujours aux attentes des électeurs. Donc, les populations sont un peu déçues, les hommes et les femmes politiques.
Alors donc, dans ce cas, vous, en tant qu'expert, analyste, juriste, quelle devait être leur stratégie pour amener les Ivoiriens à s'inscrire davantage sur la liste électorale?
D'abord, ils doivent aider la CEI à faire de la sensibilisation, à aller vers les électeurs, pour leur montrer la pertinence de l'élection. Dans tous les cas de figure, en Côte d'Ivoire, l'élection est libre. Donc, vous pouvez voter comme ne pas voter, mais les décisions prises par les autorités élues, au choix duquel vous n'avez pas participé, s'imposent à vous. Donc, la meilleure manière de sanctionner positivement ou négativement un élu, c'est de participer à l'élection. Je pense qu'il faut certainement revoir le comportement des hommes politiques, moins de violence électorale. Tout ceci pourrait peut-être amener les Ivoiriens à s'intéresser davantage à la question électorale.
Et pendant qu'ils appellent à un recensement massif des électeurs sur la liste électorale, il y en a parmi eux qui demandent aussi que cette liste électorale soit nettoyée des électeurs qui n'ont pas le droit d'y figurer.
Oui, c'est la question de l'audit de la liste électorale. Je pense que la proposition de l'opposition n'est pas mauvaise. Si on n'a rien à cacher, si on veut faire preuve de transparence, on peut permettre donc un audit de la liste électorale. Ça rassurerait tout le monde et ce serait tant mieux pour le processus électoral.
Alors, il y a une personnalité en Côte d'Ivoire qui n'y figure pas, qui y était, mais qui en a été expulsée par rapport à une condamnation judiciaire. Il s'agit de Laurent Gbagbo. Alors, les uns demandent qu'il soit réintégré, pendant que d'autres disent non, c'est la justice, tout et tout. Vous, en tant qu'expert, quelle est votre position, votre commentaire là-dessus?
Non, vous savez qu'il n'y a de démocratie que de démocratie libérale. C'est-à-dire les élections doivent être inclusives. Elles doivent intégrer tout le monde. Et ensuite, nous sommes dans une dynamique de réconciliation nationale. Et donc, au regard de ces deux éléments que je viens d'évoquer, je pense que la réintégration de M. Laurent Gbagbo, de M. Sorou Diom et de M. Blaise Goudé sur la liste électorale participeraient du progrès politique et de la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.
Et vous pensez que cela va se faire?
Je pense que c'est une question purement politique, mais je pense qu'il serait bien dans l'intérêt de toute la nation ivoirienne que tous ceux qui veulent participer à cette élection puissent le faire et que le dernier mot revienne au peuple ivoirien à travers son suffrage pour départager les uns et les autres. Vous savez que les questions électorales en Côte d'Ivoire depuis 1995 tournent autour des querelles d'exclusion. Dans les années 90, c'était M. Ouattara qu'on a tenté d'exclure du jeu électoral. En 2000, c'est M. Bédié qu'on a exclu du jeu électoral. Et aujourd'hui, c'est M. Gbagbo, M. Blaise Goudé et M. Soro. Je pense qu'il faut mettre fin à ce cycle qui fait de l'élection une opération anxiogène. Vous voyez qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur pour 2025 parce que déjà, on voit qu'il y a une mésentente abyssale entre les uns et les autres quant à l'organisation d'élections pacifiques.
Justement, parlant d'organisation d'élections en Côte d'Ivoire, il y a l'opposition qui pointe la CEI demandant une réforme totale de la CEI.
Moi, je suis pour la réforme de la CEI dans son organisation, mais sans les représentants du président de la République, du ministre de l'Intérieur et surtout des représentants des partis politiques. Je pense que les partis politiques, étant les compétiteurs, n'ont pas à être à la fois compétiteurs et arbitres. Donc la commission électorale doit être indépendante et de l'administration et des partis politiques. Autrement dit, revenir exclusivement à la société civile.
Mais la société civile dont vous parlez, vous pensez qu'elle est vraiment neutre parce qu'on peut être en apparence société civile, mais dans le fond, on est parti politique. C'est possible.
Oui, c'est une suspicion légitime, mais on peut donc mettre en place un certain nombre de critères. On a vu par exemple M. Honoré Guier de la société civile organiser des élections en 2000. Et on a vu comment il a été objectif et impartial.
Alors, est-ce que cela ne serait pas lié, excusez-moi du terme, à être honnête avec les textes et autres? Parce qu'on peut être partisan, mais si on veut être honnête avec les textes, tout peut baigner.
Oui, en principe, les textes devraient pouvoir régler cela. Par exemple, le Sénégal. Mais c'est l'administration qui organise les élections. Mais l'administration est impartiale. Et les textes permettent d'être impartial. C'est-à-dire que si on veut respecter les textes, en principe, il ne devrait pas avoir de problème. La difficulté, c'est que les tests sont là, mais nous ajoutons notre passion partisane, ce qui force le jeu.
Geoffroy Julien Kouaou, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Francis Cassi.
L'entretien de ce matin, Geoffroy Julien Kouaou, a été interrogé par Francis Cassi. Il se prononçait justement sur les contours de l'inscription sur liste électorale, mais aussi sur la bonne attitude à tenir relativement aux politiques. C'est la fin de ce 7 heures. Le rappel des titres. Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, chapelle politique en action sur le terrain. L'opposition ivoirienne peut-elle s'unir face au RHDP? Eh bien, pour Dr Flamboké César, vous l'avez entendu dans cette édition, cette probabilité a peu de chances du fait d'une gauche fragmentée. Et puis, lutte contre la corruption. En Côte d'Ivoire, elle se fera désormais à partir d'un document de stratégie nationale élaboré sous la houlette de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance. Vous avez entendu le président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire, Christophe Cassi. Et puis, en page internationale, la création de la Confédération de l'AES au cœur du sommet de la CDAO, c'était ce dimanche à Abuja. On se retrouve à 8h pour le deuxième journal de cette matinée. D'ici là, Ghislain Koulibaly vous retrouve pour les Matins de la Paix.